Alors, donc pour moi, m'occuper de la maison des adolescents de Cochin, la maison de Solène, disons, c'est une étape importante. J'ai eu la chance donc de pouvoir développer à Bobigny, auprès de Lebovici, un travail donc avec les bébés, les enfants, les adolescents, enfants de migrants. Et leurs parents, donc tout un travail sur la construction des interactions en situation migratoire et développer un dispositif d'accueil et de soins de ces enfants et de ces adolescents. Et je l'ai fait avec beaucoup de bonheur. J'ai aussi ouvert la maison des adolescents d'Avicenne, Casita, et il y a à peu près 4 ans. Et disons que il me semblait que là, j'étais arrivée à un moment où, premièrement, ce que j'avais construit à Bobigny en m'appuyant sur mes pères, ceux-ci avaient une existence incontestable, une reconnaissance, à la fois sur le plan clinique, enseignement, recherche, et que je pense que le mouvement pouvait continuer. Bien sûr, je pense qu'il faut veiller sur lui, parce que tout ce qui est comme ça en marge est toujours un peu fragilisé par la marge, quoi. C'est-à-dire que dans les moments de tension, on est capable de remettre en question les choses qui ont pu être faites à la marge parce qu'elles étaient soit trop créatives, soit différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je sais qu'il faut continuer à veiller, mais je sais aussi que sur ce travail transculturel d'Avicenne et de Bobigny, mais je sais qu'il y a là-bas une équipe un contexte et un dispositif qui est suffisamment parvenu à maturité pour qu'il puisse non seulement continuer à exister, mais se développer à Avicenne. Et puis, il y avait cette idée que ce qui était bon pour Avicenne, que j'ai défendu pendant plus de 20 ans, était bon aussi pour l'intérieur de Paris, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais défendu une vision transculturelle qui soit une vision d'une spécificité absolue, qui ne pourrait être réservée quasiment qu'à la marge ou à la limite. Mais pour moi, au contraire, le travail transculturel, c'est un travail de la modernité. C'est le travail des cliniques, des sociétés modernes, multiculturelles, avec des modifications très importantes des structurations familiales, avec des mouvements, pas seulement des familles, mais des enfants qui bougent, qui changent de structure, les parents se séparent, ils changent de famille, ils changent de monde, il y a l'action de l'adoption internationale, enfin toutes ces questions qui font que les enfants traversent des langues, des cultures, et que finalement ce que dans un premier temps était réservé aux enfants de migrants, il me semble maintenant que ça doit nous éclairer pour l'ensemble de la clinique des bébés, des enfants et des adolescents. Et donc cette opportunité qui m'était donnée de venir à développer la maison des adolescents de Cochin, la maison dite de Solène, il me semblait que c'était un moment où, justement, fort de l'expérience transculturelle d'Avicenne, on pouvait, à l'intérieur de Paris, d'abord offrir des services variés à l'ensemble de la population parisienne, mais aussi, disons que développer à l'intérieur de Paris des choses qui étaient restées un peu aux marges, quoi. Et avec cette nouvelle structure de la maison des adolescents de Cochin, ce qui m'intéressait, maintenant que j'y suis, ça m'intéresse encore plus, si j'ose dire, enfin, encore plus passionnant lorsqu'on est dedans, c'est tout ce travail sur les interactions entre le corps, le fonctionnement psychique et toutes les appartenances des adolescents, c'est-à-dire les appartenances familiales, mais aussi culturelles. Et là, dans cette maison des adolescents, nous avons à la fois des pédiatres, des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues, des psychomotriciens, tous les gens qui représentent l'école, les artistes. Donc on a une sorte d'outil comme ça extraordinaire pour travailler sur toutes les... D'abord sur la complexité de ce qui se passe pour les adolescents et les nouvelles familles, les nouvelles parentalités. Et puis, les adolescents, ils sont par définition un peu le symptôme des choses difficiles de notre société, quoi. Et donc, une compréhension, un travail global avec les adolescents, dans l'ensemble de leurs dimensions, pour tous les adolescents, y compris les plus vulnérables, y compris ceux qui vont cumuler des obstacles. Travailler sur toutes ces interactions entre les choses qu'ils expriment par le corps, les choses qu'ils expriment par l'affect, ou les choses qui vont s'exprimer par exemple par une inhibition de la pensée, et pouvoir rendre toutes les familles, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur représentation, acteurs du soin de leurs adolescents, moi je trouve qu'il y a vraiment un défi tout à fait extraordinaire ici, et que nous allons pouvoir développer en tenant compte justement de ce qu'on a appris sur la clinique du singulier, sur les expressions, les mille et une expressions qu'il peut y avoir chez les adolescents et leurs familles. Et puis, dans cette maison, il y a déjà un certain nombre d'activités qui ont été développées sur, par exemple, la prise en charge à la fois somatique et psychique des adolescents. Soit ils ont une souffrance psychique, soit c'est des adolescents aussi qui ont des maladies chroniques, par exemple, et qui dont cette maladie chronique, comme le diabète, par exemple, va avoir des conséquences psychologiques, ou alors quand les deux s'associent. On peut être diabétique et avoir envie de mourir dans certains cas, surtout à l'adolescence. Et donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont développées sur ces types d'interactions, sur l'interaction aussi entre les formes d'expression artistique et puis la parole et les traitements psychiques. Mais il manque tout un axe qui est justement, ma formation me permet de le faire et l'équipe est très désireuse de le faire aussi, parce que j'ai trouvé ici une équipe qui était vraiment très déterminée à faire tous ces changements, ces transformations et continuer à développer cet outil quand même assez extraordinaire. C'est donc les intrications entre l'adolescent et ses différentes appartenances sociales, éducatives, culturelles. Par exemple, je prends l'exemple de deux types de situations qui me touchent beaucoup ici. Les troubles du comportement alimentaire. Hein. Donc, parmi nos lits d'hospitalisation, on a 6 lits qui sont réservés aux troubles du comportement alimentaire, anorexie et boulimie, 6 aux intrications médico-psy et 8 aux situations de crise psychopathologique. Et donc, parmi les jeunes filles anorexiques, le fait que ce soit qu'il y ait beaucoup de troubles du comportement alimentaire et que ce soit un mode d'expression pour certaines jeunes filles qui permet de dire en fait pas seul des choses très très différentes. Ça permet de dire aussi bien une grande solitude psychique qu'une impossibilité à prendre du plaisir ou une volonté ou une difficulté à grandir. Ça peut vouloir dire des choses très différentes, mais n'empêche qu'on attaque son corps. Et que cette modalité d'expression de la souffrance psychique par des troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'appartient pas qu'aux jeunes filles, mais aussi à la société. C'est-à-dire que c'est sur ce symptôme se cristallise vraiment un certain nombre de nos difficultés à être parents, à manger ensemble, à partager des choses qui passent par la nourriture, mais aussi par la parole. Et je trouve que s'occuper des troubles du comportement alimentaire avec une lecture qui soit une lecture aussi qui tienne compte du contexte et pas seulement du fonctionnement interne de l'adolescent, parce que il y a vraiment des intrications très fortes. Donc, par exemple, pour prendre cet élément-là, des troubles du comportement alimentaire, et puis vous savez que les troubles du comportement alimentaire, c'est très lié à notre société. Il commence à y en avoir dans les grandes villes du monde entier, mais à toute petite dose. C'est manifestement lié à notre... C'est un symptôme culturel, quoi. Intraculturel, mais culturel. Et d'ailleurs, les enfants de migrants s'en emparent relativement bien. Hein. C'est comme si ça culturait. Ils devenaient vraiment français en étant malades comme les Français. Donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre, à travailler et à proposer une aide particulière pour toutes ces jeunes filles anorexiques qui tiennent compte du contexte. Un autre exemple qui me frappe toujours beaucoup, c'est les phobies scolaires. Il y a beaucoup d'adolescents, nous en avons ici aussi beaucoup, qui ont des phobies scolaires. Et c'est une épidémie, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Alors, la phobie scolaire de ces adolescents, c'est pas qu'ils veulent pas aller à l'école, c'est qu'ils peuvent pas aller à l'école et qu'ils sont pris d'angoisse massive. Et pour faire une phobie scolaire, il faut des choses qui appartiennent aussi bien aux adolescents eux-mêmes, à leur fonctionnement psychique, à l'interaction que ces adolescents ont avec l'école. Et puis, à ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Hein, parce que, je veux dire, quand on a comme ça des adolescents qui sont tellement angoissés par l'école, que l'école prend une telle place, même chez ceux qui n'arrivent plus à y aller, il faut considérer que si on veut modifier vraiment les phobies scolaires, il faut s'occuper de l'ensemble de ces trois niveaux. Et je trouve qu'une lecture qui tienne compte de comment le contexte crée la phobie scolaire me semble être quelque chose qui vient d'une lecture transculturelle, mais qui est à mettre au service de tous. Alors, par ailleurs, dans cette maison des adolescents, en plus de ce qui existe déjà et qu'on va continuer à développer, j'ai commencé à développer une consultation transculturelle pour les adolescents enfants de migrants, qui est très utile à l'ensemble de la maison parce que ça permet de voir autrement les situations complexes et puis de provoquer des changements. Une consultation adoption internationale, donc pour tous les enfants de l'adoption internationale qui, à un moment ou à un autre, se posent des questions, des souffrances ou alors leurs parents. Et une troisième consultation nouvelle qui est celle des étudiants étrangers. Donc tous ces jeunes étudiants qui sont à Paris et ils ont une situation d'exil, quoi, de migration. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui, arrivés ici, sont tout à fait... Il y a une telle distance avec ce qu'ils imaginaient, puis la séparation avec les parents, et puis l'investissement d'un nouveau monde. Et donc, je pense que cette maison des adolescents peut mettre au service de toutes ces différentes populations une aide et un savoir qui est, voyez, on va dire, transculturel au sens large du terme. Donc, ce que je trouve vraiment de passionnant ici, c'est cette possibilité donc de développer tout ce travail avec les adolescents, les intrications avec la société, la société commençant par les parents bien sûr, mais aussi ensuite les appartenances des adolescents et puis la société tout entière, de pouvoir aussi, ça c'est un autre aspect qui me passionne ici, c'est l'idée que cette maison des adolescents, le concept moi je trouve formidable, j'ai déjà eu la chance d'avoir construit celle de Bobigny, maintenant de m'occuper de celle-ci, et je pense que c'est quelque chose à exporter, quoi. C'est-à-dire que ce modèle-là est quelque chose qui devrait pouvoir aider des adolescents dans le monde entier. En commençant, parce qu'on a déjà commencé à travailler, en commençant là, parce que c'est là où on a des contacts et déjà des analyses des situations et des demandes, par l'Europe du Sud et le Maghreb, hein, avec l'idée de développer la compétence dans ces pays d'Europe du Sud et du Maghreb, on commence par cela parce qu'il faut commencer par certains, hein, il y en a d'autres, d'augmenter la compétence en tenant compte du savoir des professionnels dans ces pays et des familles, donc en tenant compte de la dimension transculturelle, mais d'exporter le modèle maison des adolescents, parce que je pense que c'est un concept, une idée, un dispositif qui vaut la peine de le faire voyager. Et que par ailleurs, je pense que la définition même d'une maison des adolescents, c'est de s'articuler à son contexte, c'est-à-dire d'être en interaction avec ce qu'il y a autour d'elle. Et donc, c'est quelque chose qui voyage très bien, parce que les maisons des adolescents, elles ont des choses en commun, c'est comme les êtres humains, mais elles ont aussi des choses spécifiques en fonction du contexte et des besoins et des manières de penser. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un adolescent ? On ne pense pas la même manière ce que c'est qu'un adolescent. Dans un endroit où l'adolescence est longue et interminable, ou dans un endroit où l'adolescence est courte, mais elle peut être courte parce qu'on est soit enfant, soit adulte, et que le passage se fait rapidement. Alors un autre plaisir de venir travailler ici, c'est effectivement de se dire que ici on n'est pas tout seul. Il y a déjà un réseau, il y a plusieurs types de réseaux, des réseaux Paris-Sud autour des adolescents, le réseau périnatalité autour des bébés et de leurs parents. Il y a des services qui sont donc ces réseaux dans lesquels moi je tiens absolument à m'insérer par plusieurs voies, je dirais, parce qu'on sera complémentaires par la voie des adolescents, en se répartissant les rôles en fonction de nos compétences et de ce qu'on est capable de rendre comme service, par les bébés, parce que c'est une autre porte d'entrée. La maison des adolescents s'intéresse aussi aux questions qui concernent les bébés. pas seulement pour les adolescents qui ont leur bébé, mais aussi pour toutes ces situations. On connaît les liens très forts. Hein. En général, ceux qui aiment s'occuper des adolescents aiment aussi s'occuper des bébés. C'est quelque chose qui va avec. Et moi, par tradition et par filiation, c'est quelque chose qui m'importe énormément. On fait de la prévention déjà lorsqu'on s'occupe des bébés. On fait de la prévention du travail avec les adolescents. Et donc, les bébés. Et le troisième élément sur lequel moi, je vais m'insérer, c'est par le transculturel. C'est en apportant dans ces différents réseaux une lecture transculturelle qui permettra que je trouve ma place complémentaire du service, par exemple, de Bernard Goltz ou de celui de Maurice Korkos. Hein. Mais c'est vrai que de savoir qu'on est dans un lieu où on peut où il y a déjà des réseaux très actifs, on peut établir des liens, des échanges, aussi bien sur le plan clinique que sur le plan de la recherche et de l'enseignement, puisqu'on a des projets multiples d'enseignement, disons, commun, ou alors, enfin, d'enseignement, oui, de mettre dans le même pot des enseignements qu'on fait pour pouvoir les faire de manière plus étendue et peut-être plus approfondie. C'est quelque chose qui est extrêmement agréable de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on va pouvoir créer ce type d'interaction au service donc de ces trois populations, adolescents, bébés et transculturels en général. Quelque chose sur lequel j'ai pas insisté tout à l'heure, mais sur lequel je voudrais réinsister, c'est tout cet apport des mondes artistiques au service des adolescents dans la maison des adolescents de Cochin. Donc ça, les différents types de soins qu'on va essayer de développer encore, hein, parce qu'on a déjà beaucoup de types de soins individuels, de soins familiaux, de soins transculturels, mais il y a encore des choses qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas comme type de soins qui sont, par exemple, toute cette approche d'évaluation et de soins des adolescents autour des addictions, et en particulier des nouvelles addictions, au jeu, mais aussi à des tas d'autres situations. Serge Tisseron, qui est déjà parmi nous, s'en occupe, mais on souhaite ensemble le développer beaucoup plus. Donc il y a tous ces enjeux cliniques que j'ai dit, qui vont jusqu'à les nouvelles consultations donc transculturelles, adoption internationale ou étudiants étrangers. Mais c'est un point extrêmement important, c'est le point de la clinique. Le deuxième, c'est celui de l'enseignement, avec l'implication aussi du côté des sciences humaines, c'est-à-dire par exemple les liens avec le laboratoire de psychologie de Paris 5 dans lequel je suis, et que la maison des adolescents devienne pour tout ce qui concerne l'enseignement et la formation des adolescents un lieu ressource, quoi, où on met en commun. Il existe déjà, par exemple, ici un diplôme universitaire de médecine de l'adolescent qui est celui qui avait été créé il y a 17 ans par Marcelli, qui est maintenant ici et qu'on voudrait développer. Pour l'instant, il se fait en un an et on voudrait l'année prochaine développer des options. Donc disons qu'on devienne comme ça une tête de pont pour potentialiser entre nous l'enseignement sur les adolescents. Moi, je rêve de faire sur la psychopathologie de l'adolescent ce que les Bovici avaient fait sur la psychopathologie du bébé en enseignement, à savoir du téléenseignement dans le monde entier. Je sais le faire, puisque je l'ai fait avec lui, il me l'a appris. Je sais qu'on va le faire, que c'est quelque chose qu'on va lancer assez vite. On a commencé d'ailleurs à établir des banques de données, hein, pour avoir des documents filmés, des documents cliniques, pour avoir du matériel à notre disposition pour échanger dans différentes langues. Hein, parce que avec les Bovici, on l'avait fait en espagnol, par exemple. Et en espagnol, bien sûr, je tiens à continuer à le faire en espagnol, mais on se prépare à le faire aussi en anglais, en italien, enfin, dans différentes langues. Donc, cette ressource d'enseignement et de formation. Et puis, le dernier point pour lequel je suis là aussi très chanceuse, c'est de pouvoir bénéficier de liens avec l'équipe INSERM qui est dans la maison, qui est dirigée par Bruno Falissard, qui est quelqu'un très désireux de développer toute cette recherche au service de la psychopathologie des adolescents, mais aussi en amont et en aval. Et dans cette équipe, dans cette unité INSERM, j'ai constitué donc une équipe qui travaille sur les facteurs de vulnérabilité et de risque des adolescents, qui travaille sur les parcours langagiers des adolescents et qui travaille sur l'évaluation des soins psychothérapiques en situation chez les adolescents dans différentes situations qui vont d'évaluer par exemple ce qui se passe dans les activités artistiques lorsqu'on propose des activités aux adolescents, est-ce quel type de changement ça va provoquer chez eux ou pas. Aux techniques plus classiques d'entretien individuel ou de psychodrame, par exemple, ou de techniques transculturelles. Donc, de travailler sur les mécanismes de changement et dans différentes situations, sachant que un des intérêts de mon parcours, c'est de pouvoir aussi faire des liens entre des lieux différents. Maintenant, je suis ici. Je connais pas l'ensemble des éléments de ce nouveau contexte, mais je vais apprendre à les connaître. Mais par contre, je peux faire des liens avec mon ancien contexte, avec Bobigny, pouvoir travailler sur à la fois sur la population de Bobigny, sur celle de Cochin, et par exemple, comme je travaille aussi avec Médecins Sans Frontières, on a d'autres terrains de guerre, donc où, sur lesquels on monte des programmes de soins pour les enfants et les adolescents, et donc d'avoir finalement à notre disposition, en termes de recherche, différents lieux, des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble, puisque on va faire évidemment des ponts très importants en termes de recherche en particulier entre Avicenne et Cochin, entre Paris 13 et Paris 5. Donc c'est comme si ça ouvrait notre horizon quoi, et ça nous permettait à la fois de faire varier des techniques, de bien être capable de poser des indications d'être capable de voir les effets et les limites en fonction des contextes, de voir aussi ce qui peut protéger certains adolescents et d'autres les vulnérabiliser. Et puis, et c'est finalement, c'est une de mes préoccupations qui revient constamment, sur quels sont les éléments du contexte qui fragilisent les êtres et quels sont les éléments du contexte, ça va ensemble, parce que le contexte, on ne peut pas toujours le modifier, mais on peut voir qu'est-ce qu'on peut prendre dans le contexte pour être plus fort, quoi. Pour être capable d'être plus fort, d'être créatif, de surmonter des difficultés, et quels que soient les contextes, il y en a. Donc moi, j'ai le sentiment que mon horizon, comme ça, c'est encore ouvert, quoi. On va pouvoir travailler avec différents types d'adolescents et faire en sorte aussi qu'ils accèdent tous réellement aux soins. Parce que l'ouverture de la maison des adolescents, celle de Cochin, sur la ville, à mon avis, elle doit être continuée. C'est-à-dire que il est nécessaire que ce soit une vraie maison ouverte à tous, accessible à tous, et où, quand je dis tous, c'est les adolescents, les familles, mais aussi les professionnels, et donc d'utiliser ce qu'on a appris sur... parce qu'à Bobigny, on avait fait autrement, on avait fait le réseau et la maison. Ici, à Cochin, c'est la maison qui a été construite, bien construite, si j'ose dire, même s'il faut continuer à la développer, hein, puisque dans mes projets, il y a l'ouverture d'un hôpital de jour dans une année, à peu près, je le pense. En tout cas, on est en train de travailler là-dessus. Maintenant, on doit travailler plus sur le réseau, c'est-à-dire faire en sorte que cette maison devienne une véritable ressource pour l'ensemble du réseau, en complémentarité avec ce qui existe, puisqu'ici, on est dans un endroit où il y a énormément de ressources. À Avicenne, j'avais appris à le faire, par exemple, on avait constitué un groupe qui s'appelait Pédopsie 93, qui justement nous permettait d'être complémentaires. Mais c'est un peu la même chose, mais simplement ici, de le faire avec des partenaires qui qui sont des partenaires qui ont développé des identités fortes, mais nous nous connaissons bien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des questions de structure et puis aussi des questions de personnes. Mais ça, pour faire des grandes choses, c'est important, c'est les personnes, quoi. C'est pas que les structures, c'est extrêmement important, mais le fait de pouvoir compter, hein, sur des gens comme Bernard Goltz ou Maurice Corcos, c'est vraiment très 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 important pour imposer, on va dire, une préoccupation, un souci qui soit aussi bien en clinique, en enseignement qu'en recherche, pour les adolescents, tous les adolescents et leurs familles.